L'épisode 44 est un épisode spécial montagne et un épisode montagne un peu spécial. Voici deux extraits choisis de l'interview d'Adeline Loyaux, docteur en éco-éthologie, autrice et surtout une femme intelligente, intéressante et pleine d'humour, ce qui ne gâche rien, et qui a à cœur de mettre les découvertes de la recherche scientifique à la portée de tous. Je te mets déjà ici, entre autres, un des fun facts sur les incroyables facultés des batraciens. Comme ça, si tu n'as pas l'occasion d'écouter tout, tu auras déjà un truc sympa à te mettre sous la dent. Je te mets aussi un court extrait sur les lacs de montagne. Là aussi, il y avait des choses surprenantes. Avant de t'envoyer tout cela dans les oreilles, je voulais dire un grand merci à tous ceux qui m'ont laissé une évaluation sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Ce sont de super encouragements. Merci d'avoir pris le temps de le faire. Petit rappel, si tu aimes ce podcast que j'essaie de te fournir fidèlement, tu peux toi aussi me mettre une évaluation sympa et aussi me soutenir sur Patreon, la plateforme qui aide les créateurs. Elle est pour des milliers de créateurs le soutien indispensable pour les aider à créer dans la durée. Je te mets toutes les infos à ce sujet dans les notes de cet extrait.
Les amphibiens, en fait, moi, donc c'est un univers, comme je disais, je ne connaissais pas forcément au début. Je travaillais sur les oiseaux au départ, avant de commencer ce projet. Donc, j'ai découvert un peu les amphibiens et du coup, je les amène dans le livre un petit peu avec ma curiosité, où quand je commence à découvrir leur monde, où je me rends compte, mais les amphibiens font des choses absolument extraordinaires, mais bien plus même que les oiseaux, c'est un truc de fou. En fait, donc, je pourrais raconter plein de choses. J'ai fait une petite sélection, mais il y a vraiment des amphibiens. Déjà, ils sont capables de régénérer des organes entiers. Les amphibiens qui ont des queues, les urodèles, les salamandres, les tritons, j'en ai vu sur le terrain. Donc, c'est vraiment impressionnant, des bestioles qui se sont fait manger genre une patte arrière, et puis on voit un peu l'os qui ressort, et puis la patte a commencé à repousser. Donc, la peau, les os, les tendons, les muscles, tout ça, c'est capable de repousser et de refabriquer un organe entier. On se dit, mais si nous, on était capable de faire ça, ça serait formidable. Pour la médecine, les amphibiens, c'est un groupe d'espèces formidables à étudier, parce que si on est capable de percer leurs secrets, on pourrait faire des tonnes de choses, soigner des gens de façon formidable, refabriquer des cœurs, refabriquer des poumons, par exemple, pour pouvoir greffer à quelqu'un son propre poumon, quelque part, ça serait incroyable si on pouvait faire ça.
Pour les lacs de montagne, justement, on imagine toujours l'eau pure des montagnes, etc. J'étais vachement surprise en apprenant qu'ils pouvaient être très pollués, en fait, en lisant ton livre.
Oui, tout à fait. En plus, au moment où j'ai écrit le livre et où le livre est sorti, on avait donc déjà des éléments d'indication de pollution de lacs de montagne. Donc notamment, je raconte une histoire de mercure qui se promène à travers les poissons, qui monte en altitude depuis les piscicultures de basse altitude et est amené là-haut dans les lacs de haute altitude par l'empoisonnement par hélicoptère.
Oui, c'est vraiment nickel, ça. C'est tout ce qu'il faut pour la planète et l'environnement. Mais je ne connaissais pas ces histoires d'empoissonnement de lacs, quoi, en altitude.
Oui. En fait, beaucoup de gens ignorent que les lacs de montagne ne sont pas empoisonnés naturellement. En fait, d'ailleurs, on se demande bien quand on pose la question un petit peu aux gens, on leur dit, mais comment ils seraient arrivés là? Ils regardent le lac et ils se disent, ah ouais, quand même, c'est vrai qu'il n'y a pas de cascade, il n'y a pas de rivière qui arrive jusque-là. Comment le poisson aurait réussi à remonter? Et donc, en fait, on ignore souvent que oui, les lacs sont empoisonnés. D'ailleurs, parfois avec des espèces nord-américaine, hein, même pas avec des espèces locales. Donc ça pose question, justement, quand je parlais de transport de pathogènes d'un continent à un autre. Bon, bah là, par exemple, typiquement, on a des pathogènes qui forcément sont arrivés avec les poissons, des micro-organismes, etc., d'Amérique du Nord jusqu'en Europe, et puis qui ont pu être maintenus dans les piscicultures et après sont introduits avec les poissons. Parce que quand on relargue les poissons par hélicoptère, on transporte aussi de l'eau avec, hein, et cette eau contient des algues, des micro-organismes, des tonnes de choses. Après, nous, on a justement sorti une étude ce printemps, donc qui n'était pas encore sortie quand j'ai sorti le livre, donc j'en parle pas dans le bouquin, mais cette étude a eu beaucoup d'écho en France, dans la presse écrite et puis à la radio, où on démontre le fait qu'il y avait énormément de polluants organiques dans les lacs de montagne, donc par lac on trouve entre 70 et 80 molécules chimiques. Et au total, on a identifié, si je ne me trompe pas, 141 molécules. Il y en a une dizaine, on ne sait pas trop ce que c'est. On n'a pas réussi à les identifier. Donc, il y a plus de 150 molécules, chimiques qui se promènent dans les lacs de montagne. Donc, en effet, on croit que l'eau est belle, pure. Et en fait, non, non, il y a de la pollution dedans. En fait, ce qui va expliquer le grand nombre de molécules, c'est souvent, des molécules qui sont épandues, donc des pesticides, des insecticides, des herbicides, plein de trucs encides, qui sont donc des produits très doués pour tuer la vie. Ça, c'est répandu dans les basses vallées, souvent par l'agriculture, et puis c'est remonté par les vents. Et puis, comme il fait frais en haut de la montagne, ça se condense dans des gouttelettes de pluie, et ça retombe sur les sommets de montagne avec la pluie. Donc, ça contamine les lacs comme ça. Après, un autre mode d'introduction, c'est le bétail autour des lacs. Parce qu'on a trouvé certaines molécules, la diazinone, la permétrine, pour ne pas les nommer, ce sont des insecticides qui sont utilisés pour protéger le bétail contre les insectes piqueurs. Et donc ça, on les retrouve en assez grande quantité dans nos lacs de montagne. Et on a pu montrer que en fait, ces insecticides, ils sont très bons pour tuer le plancton. Donc ça tue les microcrustacés qui sont dans l'eau des lacs et ça modifie complètement les communautés planctonique avec un très très grand appauvrissement de ces communautés planctoniques dans les lacs qui sont fortement contaminés.
En résumé, gros déséquilibre quoi.
Gros déséquilibre.
Merci pour ton écoute. Si tu veux connaître la suite, il y a encore plus de faits surprenants sur les batraciens dans l'épisode. On y parle aussi des coulisses d'une vie de chercheuse scientifique à travers une enquête de terrain qui te fera découvrir la montagne sous un angle inédit. Si tu es comme moi, tu ne la verras plus jamais de la même manière. La saison 4 du podcast se termine tout doucement, ce n'est pas le dernier épisode, mais presque. Pour la saison prochaine, je peux déjà t'annoncer qu'il y aura de l'alpinisme avec Pablo Recourt, du rêve avec Capitaine Rémy et ses défis autour du monde, l'incroyable odyssée de deux pas vers l'autre et bien d'autres choses encore qui sont en train de se mitonner pour toi. À bientôt!